Bonjour à tous, bienvenue dans votre balado, vos solutions RH. Nous arrivons maintenant dans la deuxième étape du processus de dotation qui est fort importante, c'est maintenant l'analyse des CV. C'est là qu'on va découvrir tous les candidats potentiels qui ont postulé sur votre affichage. Je suis Marie-Ève Ménard, directrice du service aux entreprises chez Développement Vaudreuil-Soulanges et je serai accompagnée autour de la table aujourd'hui pour discuter avec Marc-Claude Morin et Valérie Villeneuve, toutes deux associées et expertes conseils chez Alternative RH. Bonjour, madame.
Salut, Marie-Ève. On est vraiment contente d'être là pour parler de l'analyse de CV avec toi.
Bonjour à tous. On espère aujourd'hui que vous allez trouver cette discussion utile, intéressante, surtout quand vous allez être rendu à cette étape-là là, du processus de dotation.
Merci. On a toujours des discussions intéressantes, les filles. Initialement, on avait travaillé ensemble à la définition du besoin. On a parlé aussi du profil de poste. On l'a affiché, ce poste-là, puis là, on espère qu'on est à l'étape de recevoir beaucoup de candidatures. Donc, on se pose comme première question, en fait, est-ce que les candidatures, on les reçoit, on les regarde au fur et à mesure qu'on les reçoit ou on attend une date butoir? Expliquez-moi là, un peu là, comment qu'on devrait procéder puis comment qu'on va trier ça, ces CV-là.
C'est une bonne question, Marie-Ève. Puis on va essayer de garder ça simple, OK? Fait que pour trier nos CV, premièrement, mais il faut revenir au profil de poste. Hein? On va se baser sur le profil de poste qu'on a fait là, déjà, qu'on a très bien réfléchi. Puis on va regarder nos critères d'évaluation dans ce profil-là. Fait que c'est important, ça va nous donner une base solide d'analyse, puis ça va nous permettre de vraiment comparer nos CV avec quelque chose, pas juste y aller au feeling, comme on dit, là, tu sais. Le mieux, c'est sûr, c'est pas d'attendre d'avoir une pile de CV. Surtout dans un marché rapide. T'sais, dans un marché rapide, si on attend à la fin, bien, le candidat qu'on aime et qui correspond à ce qu'on a besoin, bien, pouf, il va s'être trouvé une job, puis là, il n'existe plus, fait qu'il faut recommencer. Donc, dès qu'on reçoit les CV, bien, on le fait au fur et à mesure, on analyse nos CV, puis on les analyse avec notre profil de poste pour être sûr de prendre la meilleure décision possible.
Comment on fait ça? On prend chaque CV, puis on le passe en revue attentivement. On manque pas une ligne. Il y a des petits indices qui sont partout dans un CV. Hein? Tu regardes les trous de CV, hein? Des moments où le candidat n'était pas en emploi, il faisait quoi? Ça fait combien de temps qu'il est resté dans chacun de ses emplois? Un an, deux ans, six mois? Ça fait beaucoup de sauts, ça. Tu regardes aussi les fautes d'orthographe, tout ce qui n'est pas régulier. Par exemple, le candidat habite à Saint-Zotique, mais il a toujours travaillé dans Vaudreuil, puis depuis cinq ans, il travaille à Laval. Bien, pourquoi ce changement-là? Il est-il arrivé quelque chose? C'est peut-être juste une occasion pour lui, mais il y a peut-être aussi Anguille sous roche.
Donc là, Marc-Claude, si je comprends bien, tu te mets en mode détective. Tu vas commencer à préparer tes questions, puis on commence à avoir là, peut-être une première introduction un petit peu plus personnalisée qu'un candidat.
Tout à fait. En fait, on est rigoureux dans l'analyse des CV. On cherche même les petites coquilles, les défauts de mise en page. On regarde l'ensemble. Je peux aussi dire que souvent, on a entendu que ce qui est envoyé par le candidat devait être impeccable, parfait. Bien, je mets un petit bémol là-dessus aujourd'hui. On doit parfois faire preuve de tolérance parce que chaque poste pour lequel je recrute va être différent. Votre degré de tolérance devrait dépendre du poste. Par exemple, je recrute un DG ou dans le cas d'une adjointe administrative, bien, je pense que je m'attends à un CV bien présenté, bien ficelé, qui n'a pas de faute puis qui est clair. Par contre, si je recrute pour un poste de soudeur, bien, peut-être que je n'aurai pas les mêmes exigences. Hein? Ça ne demande pas le même niveau de compétences de rédaction, de mise en page. Donc, il faut que je sois flexible sur ces aspects-là. Donc, je dois m'adapter. Il y a même des entreprises maintenant qui embauchent sur un court résumé envoyé par texto. Mais oui, Marie-Ève.
On est rendu là.
Pourquoi pas tant que je n'ai pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairé.
Bien, on rit, là, mais moi, j'en ai vu des CV des fois là, qui étaient très, très, très créatifs. Il y en a même des fois qui font des courtes vidéos, surtout les jeunes. Fait qu'effectivement, là, de se repositionner puis en se demandant, mais c'est quel type de profil que je recherche? Bien, ça se peut que le CV là, soit un bon point de départ pour aller chercher un peu la couleur de la personne. Puis, il faut se rappeler qu'un CV, là, c'est des gens qui veulent sortir du lot. Fait qu'ils veulent ressortir, ils veulent qu'on les contacte. Fait que de vraiment se laisser embarquer. Se laisser embarquer dans cette folie-là un peu, ça nous permet de découvrir des belles personnalités. Valérie, qu'est-ce que tu aurais d'autre à dire?
Hey, c'est sûr, Marie-Ève. Puis tu sais, c'est beau la folie. Dans le fond, on aime ça quand c'est différent, quand ça sort du lot, c'est le fun. Faut par exemple que la personne qui sort du lot, là, puis là, on s'adresse peut-être moins à cette personne-là aujourd'hui, mais qu'elle nous donne toute l'information pour bien faire notre travail d'enquête. Fait que quand vous recevez, des fois, on reçoit un CV, là, il est « wow », plein de couleurs, la mise en page est excellente, mais il manque plein d'informations, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment aller dans le détail, comme l'a dit Marc-Claude. On sort notre loupe de Colombo, là, puis on regarde tout, tu sais. Puis dites-vous que tout ce qui est inhabituel, bien, on va l'adresser au candidat. Fait qu'on va y en parler, là, à un moment donné, dans le processus. Fait qu'on a ça, puis à un moment donné, on va lui demander, « Hey, parle-moi donc de telle expérience, de passer de tel poste à tel autre poste, bien, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? » Fait que nous, en analyse, on veut tracer le chemin du candidat, ses responsabilités, où il a travaillé, tout ça. Un exemple, moi, des choses que je vois souvent en recrutement, par exemple, un DG qui a été DG plusieurs années, puis whoop, je sais pas, moi, en 2020, il a décidé d'aller directeur, d'aller sous un poste, sous le poste de directeur général. Puis là, il réapplique sur un poste de direction générale. Ah, moi, je vais me poser des questions. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il a voulu changer? Pourquoi là, il veut revenir à ses responsabilités-là? Peut-être qu'il y a une excellente raison, c'est ce qu'on souhaite, mais je veux le savoir quand même. Un autre exemple, ça peut être quelqu'un qui a pris un an, je pense, à mettons, un courtier d'assurance qui a décidé que les assurances étaient finies, d'aller étudier en massothérapie, en cours intensif, finit son cours de massothérapie, puis 6 mois plus tard, réapplique dans une compagnie d'assurance. Ah, OK, pourquoi? Tu sais, t'aimais plus ça, t'as décidé de faire autre chose, finalement, tu reviens. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée, là, mais il va falloir que tu me convainques pareil. Donc, tu sais, c'est bien important de regarder ça. Puis de s'assurer de poser les bonnes questions, c'est ce qui va faciliter, dans le fond, ma prise de décision, puis qui va m'aider à faire une bonne embauche en fin de piste, là.
Bien, justement, là, pour faire ce bon choix-là, là, à qui je veux parler en premier, expliquez-moi là, un peu, là, de façon peut-être un petit peu plus technique, mais comment je vais faire mes tri de CV?
C'est quand même, somme toute, assez simple. Tu vas prendre tous les CV que tu as reçus. Si tu as quelques CV qui sont pertinents, tu vas les séparer en 3 groupes. Évidemment, il y en a que tu écartes d'entrée de jeu, là, mais tous ceux qui sont pertinents, ceux qui correspondent parfaitement à tes attentes. Hein, tu as fait ta job tantôt en amont, tout est là, c'est clair. 100% de ce que je veux, c'est là. Wow! Une pile. Ceux qui sont presque là, mais il faudrait que je les réévalue, peut-être qu'il manque un petit quelque chose, et d'autres qui ne sont pas vraiment pertinents pour le poste.
Donc là, tu as 3 piles, puis qui qu'on appelle là-dedans?
Bien, tu vas regarder surtout les CV des 2 premiers groupes, tu sais. Puis tu vas les évaluer en fonction des critères que tu as établis en lien avec ton profil de poste. Fait que les candidats du premier groupe, habituellement, bien, c'est ceux qui correspondent parfaitement, là. Donc, ça devrait être tes premiers choix pour les entrevues. C'est pas toujours Walt Disney, malheureusement. On n'a pas toujours plein de candidats dans ce groupe-là.
Merci, Valérie. Bien, justement, tantôt, on disait là, qu'on va souvent appeler au fur et à mesure, mais je veux quand même laisser des traces, là, dans ce processus-là, je veux prendre des notes. Est-ce qu'il y a des outils que vous nous recommanderiez justement pour garder trace de toute l'information? Là?
Hey, des outils, il y en a vraiment une panoplie. Là. Il y a plein de ressources en ligne où tu peux trouver des outils, des modèles de grille d'analyse de CV que tu peux mettre à ta main. Dans le fond, tu peux les personnaliser. Mais nous, on en a même créé un pour vous qui est disponible sur le site de Dev. Donc, ça peut vraiment faciliter la tâche. Ça donne une structure puis ça permet effectivement de garder une trace des évaluations.
Ça te permet de garder une trace, mais ça te permet aussi d'être juste et équitable hein, dans ta sélection. Là. Puis, tu n'as pas laissé de t'influencer parce qu'une journée, tu es de bonne humeur. Fait que là, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Puis, le lendemain, ben, tu es de mauvaise humeur. Puis là, personne n'est bon. Puis, on sac toutes les CV au vidange. Donc, on s'assure d'avoir une grille, d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer. Donc, tu sais, votre grille, on vous recommande, là, allez-y avec quelques éléments. Tu n'es pas obligé d'en mettre 50, là, peut-être. 5, 6, 7 éléments. En fait, le nombre va dépendre du poste que vous affichez. Puis on regarde ces éléments-là, puis on va mettre une cote sur 10 ou sur 5. Puis on va aller noter avec chaque CV, bien, mettons, je sais pas moi, diplôme, par exemple, je veux un bac, mais la personne a un bac, fait qu'elle a 10 sur 10, par exemple. T'sais? Fait que pour chacun des critères, on va l'évaluer, ça va nous donner une note à la fin, fait que ça nous permet d'avoir un processus un petit peu plus réfléchi, puis de pas prendre une décision émotive. T'sais, on a parlé de beau CV tantôt. Le CV, il est vraiment beau, j'aime les couleurs, waouh! Vite, on le passe en entrevue, on va le passer dans la machine, dans la grille, puis peut-être que là, finalement, on va réaliser que c'est pas si fort que ça, finalement, ce CV-là, tu sais.
Ça se peut déjà, il y a certains critères de base qu'on avait demandé, puis que finalement, s'ils l'ont pas, bien, c'est un rejet automatique du CV. Mais avant de rejeter des CV de façon systématique, on peut aussi se rappeler qu'on travaille avec des humains, on travaille avec un certain instinct qu'on a en tant que recruteur aussi. Donc, il faut vraiment, je crois, ouvrir nos œillères, pas avoir de préjugés, parce que des belles histoires, on en a. Vous en connaissez, vous en avez vu beaucoup dans votre carrière. Donc, des fois, des gens qui n'ont peut-être pas les premières qualifications, mais qui ont des qualifications sur lesquelles on peut travailler, on peut les former, puis ils peuvent devenir nos super employés. Des fois, des gens à qui on donne des premières chances peuvent être super fidèles parce que l'entreprise leur a fait confiance. Donc, justement, comment savoir, Marc-Claude, qu'on est prêt à donner une chance à un CV puis qu'on est prêt à aller à la prochaine étape avec lui?
C'est une très bonne question, Marie-Ève. Parfois, on va effectivement laisser filer certains CV, même s'ils ont du potentiel, parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Mais d'autres fois, on va se préparer pour l'entrevue téléphonique parce qu'elle va servir à évaluer le potentiel du candidat en profondeur. Puis là, bien, s'il manquait un petit quelque chose, puis on est peut-être prêt à donner une chance, on va aller sonder davantage puis évaluer les aspects comportementaux. L'esprit leadership du candidat, sa capacité de résolution de problèmes, son esprit d'initiative. Donc, ça va être des points sur lesquels on va mettre un peu d'emphase. On va aller valider, dans le fond, si les comportements qu'on a écrits dans notre profil de poste sont là. Peut-être qu'on pourra, par la suite, former la personne sur d'autres aspects. Oui, moi, quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui a des belles compétences au niveau de son habileté relationnelle, bien, s'il manque juste un petit quelque chose, on va le former, là, parce que tellement des belles qualités, c'est le fun de le développer.
Valérie, il y a aussi tout un cadre légal qui vient avec le recrutement. Donc, en tant qu'employeur, on a des responsabilités. Est-ce que tu peux me parler de cet aspect-là qui est vraiment important puis nous rappeler les balises qu'il faut respecter?
Oui, Marie-Ève. Hey, le côté légal en recrutement, il est de plus en plus présent. Puis on pourrait en parler pendant des heures. Là, Marc-Claude et moi, on suit des formations là-dessus annuellement par les plus grands cabinets d'avocats de Montréal. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux parce qu'il y a des employeurs qui se font prendre dans des contextes illégaux, puis ça coûte cher quand ça arrive. Fait que c'est important de le savoir. Premièrement, il faut savoir qu'au Québec, il existe 14 motifs de discrimination interdits par la loi. Donc, prenez un papier, un crayon, c'est le temps de la dicter, tout le monde. On va les nommer, puis on va donner quelques exemples par la suite. Donc, les 14 motifs sont les suivants. Il y a, premièrement, l'âge, la condition sociale, la grossesse, les convictions politiques, le sexe, la race, la couleur, la religion, la langue, attention, c'est pas fini, l'état civil, l'identité ou l'expression de genre, le handicap, l'origine ethnique et finalement l'orientation sexuelle. Donc, 14 motifs de discrimination interdits par la loi, là, c'est pas rien, faut les connaître.
Valérie, là, si on n'a pas eu le temps de toutes les prendre en note... Je vous rappelle qu'ils sont disponibles. Ils sont disponibles. On a une belle charte aussi, puis il y a plusieurs petits exemples qui viennent illustrer. Mais parle-moi-en, là, peut-être juste quelques petits exemples des contextes dans lesquels ces facteurs-là sont venus... jouer des rôles importants dans le cadre du processus.
Écoute, ça arrive quand même souvent, puis bien malgré nous, souvent, là, par exemple, on va dire, OK, je vais voir un CV, je cherche un manutentionnaire dans une compagnie, puis là, je vais aller voir qu'un candidat a fini son secondaire en 1958. Je donne un exemple très fictif. Mais là, je vais me dire, OK, il est peut-être un petit peu âgé, fait que je vais avoir tendance à peut-être le discriminer en me disant, bien, cette personne là est trop vieille pour le poste, alors que peut-être qu'elle est super en forme, on le sait pas. Par exemple, je peux voir au CV que quelqu'un fait du para-hockey comme loisir. Ah, bien là, je vais me dire, cette personne-là a un handicap, donc je pourrais le discriminer. Par exemple, je peux aussi recevoir un CV, quelqu'un qui m'apparaît super compétent, mais qui a 15 ans d'expérience de travail au Maroc et peu de travail pertinente au Québec. Donc là, bien, je vais le discriminer en fonction de son origine. Par l'orientation sexuelle, quelqu'un qui est, par exemple, membre d'un conseil d'administration LGBTQ+, bien, ça va me donner un indice. C'est illégal de faire ça. C'est vraiment important, puis vous êtes de plus en plus responsables, les employeurs, de respecter ces règles-là dès le départ de votre processus. Fait qu'il faut regarder le CV dans son ensemble de manière neutre. C'est là que la grille va venir nous aider aussi. Puis ça va être pertinent, là, dans le fond, là, ces connaissances-là, à travers tout votre processus d'entrevue.
Je pense que tu as même une anecdote hein, de quelqu'un qui avait envoyé son CV sous deux formes, puis qu'il y a une certaine forme avec laquelle, finalement, il y a eu de meilleurs résultats, puis c'est vraiment un exemple flagrant là, de discrimination.
Écoute, ça n'est épeurant quasiment. Là. Dans le fond, c'est quelqu'un qui envoyait son CV avec son nom d'origine. C'était quelqu'un qui venait pas du Québec initialement et qui venait d'emménager, puis recevait jamais de retour. Là. Personne ne la rappelait jamais, cette personne-là. Fait qu'un moment donné, elle s'est tannée, puis elle a dit, ben tiens, je vais mettre que je m'appelle Martine Leblanc. T'sais, sur tous ses CV. Puis là, pouf, le téléphone sonnait. Tout le monde voulait embaucher Martine Leblanc, mais personne ne voulait embaucher la personne avec son nom là, d'origine. Donc, c'est un peu... Bien, premièrement, c'est très, très illégal, tout ça, là, mais ça démontre à quel point, même si on se dit qu'on n'est pas discriminant, des fois, peut-être qu'on l'est un peu, là, parce que c'était exactement le même CV. Là. Aucun changement à part le nom en haut. Là. C'était épeurant.
Donc, on enlève nos œillères, puis les préjugés, là, ils n'ont vraiment pas sa place dans le processus de recrutement. Marc-Claude, d'autres exemples peut-être? Là,
un exemple récent d'un client pour qui on recrutait pour un poste là, vraiment hautement qualifié. Ben, l'employé de ses rêves, il travaillait au Subway depuis 2 ans. Puis avant de travailler chez notre client, Subway, 2 ans, qu'avait-il comme formation? Un doctorat en chimie. Donc, il faut le faire. Il faut vraiment être curieux, il faut vraiment élargir nos horizons, s'intéresser aux candidats. C'est important de connaître tout ça, poser les bonnes questions. Sur peut-être un petit croche, juste pour vous dire au niveau du côté légal, je fais un petit retour là-dessus. Vous savez que maintenant, les candidats ont des droits dès le début du processus d'embauche. Donc, je n'ai pas juste des droits quand je deviens employé. Si je suis participant à un processus d'embauche, je parlais de Martine Tremblay, et je me rends compte justement que je n'ai pas été pris en raison de mon nom, bien, j'ai des droits. Je pourrais poursuivre l'entreprise qui a fait preuve de discrimination à mon endroit. Donc, faites attention, hein, pas juste pour ne pas vous mettre les pieds dans les plats, juste pour adopter des bonnes pratiques, pour ne pas vous priver de bons candidats.
C'est exactement le mot de la fin que j'avais préparé, Marie-Claude. Hein? C'était ne passez pas à côté de vos employés clés. Ils sont peut-être le plus près que vous le croyez. Et blague à part, tu sais, faites attention effectivement au niveau des lois. On vous souhaite bonne chance dans ce processus-là qui était le tri de CV. On va se rejoindre dans un prochain podcast pour vos premières entrevues téléphoniques. Merci beaucoup encore pour ce partage-là, Valérie et Marie-Claude.
Merci, Marie-Ève.
Merci. Thank you.